Eh bien, bonjour à tous. Alors, j'ai intitulé ce message ce matin « Heureux les débonnaires ». Ça va s'afficher. Attention. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est tiré de l'évangile de Matthieu, dans ce qu'on appelle les béatitudes. On va appeler Jésus, il donne une suite d'une dizaine de phrases qui commencent par « heureux ». Et donc il y en a une, c'est « heureux les débonnaires ». Alors le problème, c'est que ce mot ne fait plus partie des mots qu'on utilise. Donc c'est un petit peu gênant. C'est un mot qui est HS, hors service. Donc moi-même, j'étais regardé dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Quelqu'un de débonnaire, c'est quelqu'un qui se caractérise par une grande bonté, une tendance à se montrer favorable et secourable à autrui. On pourrait donner des synonymes. Quelqu'un qui est bienveillant, qui est bon, qui est généreux, qui est doux. Dans les traductions plus récentes, parce que vous vous rendez compte que j'ai pris « heureux les débonnaires », ça vient d'une vieille traduction qui a dû être faite quand on n'était même pas né. Donc, ce verset il est traduit par « heureux les doux ». Alors, lorsque Jésus met ces deux mots côte à côte, « heureux les bienveillants, les généreux, les doux », c'est un peu choc, non? Ça va complètement à l'encontre de notre pensée. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Alors, je pense que déjà, tout de suite, le neurone chrétien s'est mis en route et beaucoup d'entre vous se disent « Ben oui, vous avez été à l'école du dimanche. Vous vous rappelez ce verset de Jésus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Bien sûr. Alors, moi je vous propose, parce que je suis resté encore un petit peu en arrière, de regarder quelques proverbes. Et le proverbe 11-17 nous dit « L'homme bienveillant se fait du bien à lui-même, mais l'homme cruel fabrique son malheur, ou le malheur de sa propre chair. » L'homme bienveillant se fait du bien à lui-même. Alors quand j'ai lu cette phrase, ça m'a tout de suite fait penser à... ça va la sono? J'ai l'impression que ça résonne, non? Ça résonne, hein? Mais j'espère que ce message va résonner dans vos cœurs aussi. Merci. Alors, donc, je disais, quand j'ai lu ce passage, « L'homme bienveillant fait du bien à lui-même », ça m'a rappelé une phrase que ma grand-mère répétait souvent. Je pense que c'est une phrase qui n'existe plus aussi de nos jours. Elle disait souvent « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Voilà. On pourrait faire un sondage, mais je pense qu'il n'y a que les plus de 39 ans qui l'ont dit. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça veut dire quoi si on traduit en mots courants? Ben que l'amour envers les autres commence déjà par soi. Mais je ne pense pas que ce proverbe ait ce sens-là particulièrement. Mais je pense que c'est plutôt une autre réalité qui rejoint la béatitude de Jésus. Quand nous sommes bons, quand nous sommes généreux envers les autres, ça fait du bien à notre âme, à notre être intérieur. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule motivation pour faire le bien, mais c'est un profit indéniable. En règle générale, lorsque nous faisons le bien, nous nous sentons bien. Qui de nous ce matin ne l'a jamais expérimenté ? Ça ne veut pas dire que tout d'un coup tu deviens un but de ta personne, ou orgueilleux, ou rempli de propre justice. Non, ce n'est pas ça. Mais lorsque nous faisons le bien, il en résulte quelque chose, c'est que nous sommes remplis de calme, de tranquillité, et même d'humilité, parce que nous sentons que nous venons d'avoir le privilège d'être un canal de l'amour de Dieu autour de nous. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez fait du bien à quelqu'un. La dernière fois que tu as été bienveillant, bienveillante, généreux, généreuse, comment t'es-tu sentie après ? Pourquoi éprouvons-nous une telle satisfaction à faire le bien? Alors d'après Bill Hybels, pasteur à Chicago, lui il dit tout simplement c'est parce que nous avons été créés à l'image de Dieu qui est bon et qui est généreux par nature. Donc c'est pour ça que ça concerne tout le monde. Dieu a une énorme capacité de faire le bien. Et nous aussi, puisque nous lui ressemblons. Et c'est un plaisir. Chaque fois que nous faisons le bien, Dieu sourit et dit « Ah, c'est exactement ce que je voulais te voir faire. » Et nous sentons ce sourire. Et cela confirme qui nous sommes et ce que nous avons accompli. Paul écrit dans l'Épître aux Éphésiens « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, afin que nous les pratiquions. » On ne peut pas être plus clair. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour faire des œuvres bonnes. Alors là encore, dans les traductions, il y a des bonnes œuvres, des œuvres bonnes. Alors les bonnes œuvres, c'est un peu connoté ou galvaudé. Traduisons avec des mots de notre époque. Une œuvre. Bon, déjà, ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, à part dans le domaine artistique peut-être, ou dans les travaux publics. Mais à notre niveau, une œuvre, c'est un travail, une action, un geste, un acte, quelque chose qu'on fait. Donc nous avons été créés pour faire des actes bons, des actes de bonté, de bienveillance, de générosité. Et en les accomplissant, nous accomplissons ce pourquoi nous vivons. Nous réalisons notre destinée d'être humain. Alors bien que parfois ces actes nous demandent parfois des grands sacrifices de temps, d'argent, d'énergie, nous pouvons aussi faire du bien, tout simplement, en regardant les autres avec bonté, en leur disant un mot gentil, ou même en leur adressant un geste amical, même des fois un sourire, ça suffit. Alors que nos actes de bonté soient simples ou extraordinaires, Dieu s'attend à ce qu'ils deviennent dans nos vies comme une sorte de réflexe, comme une sorte de marque de fabrique, on pourrait plutôt dire. Jésus termine les béatitudes par ce passage bien connu, que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les humains reconnaîtront notre ressemblance à Dieu dans nos actes de bonté et ils rendront gloire à Dieu. N'est-ce pas là le but le plus fabuleux et le plus valable pour notre vie ? Je ne vous apprends rien, dans notre société, la richesse est mal répartie. Chacun de nous peut trouver quelqu'un de plus riche que lui ou de plus pauvre. Dieu se présente comme le Dieu des pauvres. Ça nous pose un problème parce qu'il est de leur côté. Et il attend que nous fassions quelque chose pour eux. Là encore, dans le livre des Proverbes, on trouve plusieurs phrases un peu choc qui montrent que Dieu se préoccupe du pauvre. Proverbe 14, 31 écrit « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, sous-entendu Dieu. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. » Honorer l'indigent, mais honorer Dieu. Et dans les Proverbes, on trouve aussi une promesse merveilleuse à ceux qui font preuve de miséricorde. C'est Proverbe 19, 17. « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. » C'est une sacrée promesse. Là, l'auteur du Proverbe se sert d'une métaphore financière pour révéler l'attitude de Dieu envers ceux qui sont bons pour les pauvres. Chaque fois que nous offrons à ces derniers de l'argent, du temps ou même simplement nos talents, c'est comme si nous faisions un prêt à Dieu. Le Seigneur nous promet de nous le rendre avec un bon taux d'intérêt. Il y a une bonne douzaine de proverbes qui parlent de ce sujet. Je vous laisse les rechercher, vous inspirer, mais je voudrais aujourd'hui aborder une autre réalité. Quelqu'un pourra dire « Oui, mais moi, qui s'occupe de moi ? Qui est généreux avec moi ? Qui fait des actes de bonté envers moi ? Eh oui, c'est une dure réalité, c'est une vraie question. Ça me rappelle un pasteur qui racontait la plainte, un pasteur qui vivait dans un pays très très lointain de nous, et qui racontait la plainte d'un de ses paroissiens qui disait « Je ne sais pas pourquoi, je ne suis jamais invité. Je sais que les chrétiens de mon église s'invitent les uns les autres, mais moi, personne ne m'invite. » Pauvre Calimero. Et le pasteur disait que voilà ce qu'il lui avait répondu. « Mais mon ami, n'as-tu pas une table avec des chaises chez toi? Ne pourrais-tu pas commencer par inviter quelqu'un ?» Alors je voudrais vous citer cette prière qui est connue dans pas mal de milieux. J'ai eu du mal à trouver son auteur sur Internet. On dit que c'est anonyme. Ou alors Mère Teresa, mais je ne suis pas certain. Alors, je ne l'ai pas affiché, en fait. « Seigneur, quand j'aurai faim, donne-moi quelqu'un à nourrir. Quand je serai découragé, donne-moi quelqu'un à relever. Quand mon fardeau me pèsera, charge-moi de celui d'un autre. Quand j'aurai besoin de tendresse, que quelqu'un fasse appel à la mienne. Que ta volonté soit ma nourriture, que ta grâce soit ma force. Que ton amour soit mon feu et mon repos. Que ton royaume soit mon espérance. Amen. » Vous connaissez aussi peut-être la prière qui est attribuée à François d'Assise, qui vivait, je crois, au XIIe ou XIIIe siècle, qui était un gars qui... le fils d'un riche marchand à Assise, en Italie, et qui s'est converti et qui a eu un impact sur ses contemporains. Il y a eu vraiment un renouveau, un réveil à son époque. Et voici sa prière. Elle est bien connue aussi. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. » Alors, on arrive à un tournant de cette prédication, et en fait, elle pourrait très bien se terminer là. Ça serait suffisant. La conclusion à ce niveau serait « Allez au travail, réalisez votre destinée en faisant le bien. Faites ce à quoi vous avez été appelé. Agissez avec bonté, avec générosité. Soyez à l'image de Dieu en réconfortant tous ceux qui vous entourent. » Il y aurait une deuxième façon de faire. Ça serait de continuer la prédication et puis d'expliquer, de prendre des beaux textes de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Il y en a beaucoup. Des paroles de Jésus, des paroles de Paul, de Pierre, de Jean et même de Jacques qui nous incitent à faire preuve de générosité. Ils sont nombreux, très nombreux. Prenons le temps d'y réfléchir. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous reviennent en tête là ce matin ? Si ce n'est pas le cas, je vous lance un défi. Lisez 3 chapitres du Nouveau Testament chaque jour, et à la fin de l'été, vous aurez lu tout le Nouveau Testament. 3 chapitres, ce n'est pas beaucoup, et vous aurez pu rencontrer ces textes et bien d'autres. Alors, il y a une troisième voie pour cette prédication, parce que vous me connaissez, je ne vais pas lâcher le micro tout de suite. C'est celle que je vous propose ce matin. Écoutez un conseil très pratique et simple des Proverbes. Et nous allons le décortiquer. C'est parti. Donc je vois qu'il y en aura qui auraient préféré la première solution, mais tant pis pour vous. La question qui se pose quand on se dit « Tiens, je vais me mettre à faire le bien », c'est évidemment on est prêt, mais comment ? Quand ? Où ? Envers qui ? Combien de fois ? Jusqu'à quelle limite? Est-ce qu'il faut le faire à tort et à travers? Jusqu'à l'épuisement? Parce qu'on le sait, les besoins sont immenses. Et je crois que vivre à l'image de Dieu et de Jésus, ce n'est pas vivre à l'aveuglette. Nous sommes des humains limités dans notre temps, dans notre argent, dans notre énergie. Tout cela est compté et nous ne pouvons pas répondre aux besoins de tout l'univers. Donc le livre des Proverbes nous propose une réponse très efficace. Proverbe 3:27, « Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Donc, premier point, ça ne marche plus, ça marche. On se rend compte que l'auteur de Proverbes est rempli de sagesse. Il écrit « à ceux qui y ont droit ». On pourrait reformuler en « à ceux qui le méritent », ceux qui ont digne, qui en sont dignes. Ça veut dire que certains y ont droit et que d'autres non. Alors là, je suis en train de glisser sur un terrain très politiquement incorrect, mais la Bible n'est pas politiquement correcte, n'est-ce pas ? Dire que certains ont droit de recevoir un bienfait, ça sous-entend que certains n'y ont pas droit. Ils ne le méritent pas. Prenons un exemple biblique. Nous le trouvons dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 3. Paul indique qu'il y a des gens dans la ville de Thessalonique, donc c'était une ville qui était en Grèce, en Europe, pas très loin de chez nous, et il y a des gens qui ont reçu l'Évangile et qui pensaient que ce n'est plus la peine de travailler. Ils préféraient se laisser vivre. Alors, Paul ne dit pas la vraie raison. Peut-être que ces gens pensaient que la fin du monde était proche et que ce n'était plus la peine de s'occuper des choses matérielles. Ou alors peut-être ils pensaient que Dieu les avait appelés à tout quitter, comme Jésus avait fait pour ses disciples. Bon, toujours est-il que ces gens se faisaient entretenir aux frais de la communauté. Et Paul leur dit « mais vous êtes à côté de la plaque ». Il surenchérit. Même moi, lorsque je suis venu vous voir, je n'ai pas abusé de la situation pour me faire nourrir par vous. Non, j'ai travaillé nuit et jour pour n'être à charge d'aucun de vous pendant toute la durée de mon séjour parmi vous. Et Paul encourage, c'est très surprenant, encourage les chrétiens de cette église à arrêter d'entretenir ces gens. Il conclut, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Drôle d'histoire, n'est-ce pas ? Bon, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Paul ne dit pas que celui qui a perdu son travail ou qui cherche du travail ne doit plus manger. Vous avez compris qu'à Thessalonique, certains abusaient des autres en prenant des grands airs. Revenons à Proverbes 3, 27. Ce verset nous montre que certaines personnes démunies ont besoin d'aide et nous sommes appelés à pourvoir leurs besoins. Mais les parasites ou les profiteurs, comme à Thessalonique, ne méritent pas de traitement de faveur. Dieu nous recommande de ne pas gaspiller nos biens limités en nous faisant complices de ceux qui tentent en réalité d'esquiver leurs responsabilités de personnel ou ceux qui veulent vivre au crochet des autres. Un jour, on se fera arrêter pour prononcer ce genre de choses. Dans Proverbes 16, 26, il est dit « L'appétit du travailleur, travailleur pour lui car sa bouche l'y excite ». Autrement dit, nos fins intérieures, nos désirs et puis notre fin physique sont des bonnes choses, car elles nous poussent, elles nous orientent, elles nous incitent à retrousser nos manches et à nous mettre en action. Et donc la portée de cette déclaration, dans le sens contraire, c'est que tout acte de bonté qui encouragerait quelqu'un, son bénéficiaire, de ne plus travailler, de ne plus se mettre en action pour ses propres besoins, serait néfaste. Voilà donc une autre mise en garde. Si tu es généreux avec quelqu'un mais que ta générosité empêche cette personne de prendre ses responsabilités ou l'amène à dépendre de toi ou encore lui évite d'essayer d'y arriver par lui-même, ce n'est pas bon, ni pour lui, ni pour toi. Alors bien sûr, là encore, je suis sur une pente très glissante, je me raccroche au pupitre. C'est un sujet très controversé. Vous vous rappelez certainement certaines situations catastrophique où une aide internationale avait été apportée à une région du globe qui venait souffrir une catastrophe naturelle. Et c'est indispensable. Mais que faire si les gens de cette région attendent passivement l'arrivée des avions humanitaires au lieu de reconstruire leur pays ? C'est un sujet compliqué, n'est-ce pas ? Vous connaissez ce proverbe africain ou chinois ? Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. En attendant, il a peut-être besoin des deux. Commencer à avoir du poisson pour manger, et puis après, avoir des forces pour pêcher. Voilà, oui, aider les autres, mais sans leur retirer leur dignité, c'est très compliqué. Alors nous avons quand même déjà quelques réponses à nos questions. Faut-il aider tout le monde, à tort et à travers ? Visiblement, non. Ni les profiteurs, ni ceux à qui cela va retirer leur dignité, ou les pousser à se laisser vivre. Et puis nous devons bien sûr faire attention aux arnaques. Il y en a tant. Vous recevez, comme moi, j'imagine, au moins une fois par semaine des lettres d'appels d'argent, de différentes assos, de toutes causes. Et je crois que c'est bon encore là de faire preuve de bon sens, de se documenter avant d'envoyer un chèque. Est-ce que l'association remplit réellement ce qu'elle prétend faire? Est-ce que les comptes sont vérifiables? Est-ce que les objectifs sont atteints par des moyens honorables, légaux? L'organisme est-il en règle avec le fisc? Les salaires des permanents sont-ils justifiés? Voilà, nous avons besoin de faire preuve de flair spirituel. Notre argent et nos moyens sont limités. Nous ne devons pas les gaspiller pour des causes qui n'en valent pas la peine, pour des entreprises infructueuses. Nous devons les garder pour les offrir pour de bonnes causes. Alors peut-être que je suis en train de provoquer le contraire du but recherché ce matin. Peut-être que certains se disent « oui, il a raison, il y a les arnaques, finalement je vais arrêter de donner ». Ce n'est pas tout à fait ce que je souhaiterais, vous avez compris. Revenons à Proverbe 3:27. Les cinq mots essentiels de ce verset, c'est les cinq premiers, « ne refuse pas un bienfait ». Autrement dit, lorsque l'occasion se présente à toi, ne refuse pas, ne tergiverse pas, ne recule pas, ne te replie pas sur toi-même. Ne prends pas non plus 3 mois pour te décider, que l'occasion sera passée. Si ton flair spirituel n'y voit pas d'objection, si c'est à ta portée, vas-y, passe à l'action. Rappelle-toi que tu es faite à l'image de Dieu qui aime par-dessus tout faire des actes de bonté et qui se plaît à racheter, à rétablir, à rafraîchir, à rebâtir, à redonner un second souffle. Et ça, nous pouvons nous en souvenir tous les jours. Imaginez si les 2 milliards de chrétiens qui vivent sur la surface du globe, imaginez s'ils faisaient tout le bien qui est en leur pouvoir. Imaginez ce qui se passerait. S'ils laissaient le Seigneur accomplir sa mission d'amour, de guérison, de rétablissement par l'humain, chaque jour, à chaque endroit où un chrétien se trouve. Il y aurait des actes de bonté. Et pourquoi ne vivons-nous pas dans un tel monde? J'ai bien peur que ce soit parce qu'il est rempli de gens comme moi, comme vous, qui ne laissent pas la bonté remplir leur cœur, leur esprit et leur âme. Prenons quelques secondes pour penser au dernier acte de bonté que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait. Désolé de vouloir te rappeler un mauvais souvenir, mais peut-être tu as raté une occasion. Moi, j'en ai raté énormément. Et ce n'est pas une raison pour continuer à le faire. Non, il faut inverser la vapeur et reprendre notre destinée en main. Il faut pouvoir aussi savoir s'arrêter. Et c'est toute la sagesse de cette phrase. Le proverbe dit « si tu as le pouvoir de l'accorder, quel soulagement !» Ça veut dire que dans certaines actions, certaines bonnes actions, elles ne seront pas à ta portée. Tu aurais très envie de pouvoir répondre aux besoins, mais ce n'est pas à ta portée, tu ne peux pas. Tu manqueras peut-être de savoir-faire, ou de temps, ou d'argent, ou le talent pour le réaliser. Et donc, le livre des Proverbes nous dit aussi de ne pas nous démoraliser, de ne pas nous désespérer, ni nous condamner, parce qu'on n'y arrive pas. À ce moment-là, nous ne sommes pas en train de négliger notre devoir envers le monde. Non, nous pouvons simplement dire avec tact et fermeté, ce n'est pas en mon pouvoir. Je crois qu'il faut se sortir du mauvais trip des chrétiens qui en font jamais assez. Certains se vouent corps et âme pour les autres et ils ne ressentent jamais cette approbation divine ni le rafraîchissement de leur âme. Ils se laissent accaparer par les besoins de leur entourage au point de sombrer. Toi, tu n'as peut-être pas le pouvoir de l'accorder, mais tu n'es pas tout seul. Déjà, tu peux remettre ce besoin par la prière à ton Dieu, qui s'appelle Adonai Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Toi, tu n'as pas le pouvoir d'accorder cela, mais Dieu peut s'en charger. Beaucoup d'entre nous ont appris, ont été éduqués dans leur vie chrétienne avec la fausse idée qu'il fallait donner tout ce qu'on possède, tout sacrifier à la bonne cause et jamais se préoccuper de notre bien personnel. Et je crois que cela est excessif. Et cela nécessite une recherche approfondie de la direction du Saint-Esprit. Alors voyons un exemple concernant ce qu'on pourrait appeler la limite biblique de la bonté. C'est Bill Hybels, encore lui, qui raconte quelque chose sur la parabole de Jésus la plus célèbre. Vous savez, la parabole du bon samaritain qu'on trouve dans Luc 10. Vous connaissez cette histoire, je vous la résume. Donc un samaritain a relevé un homme qui avait été malmené par des brigands et qui était laissé pour mort au bord de la route. Le samaritain l'a lavé, soigné les plaies de l'homme, l'a hissé sur son âne et l'a ramené jusqu'à une hôtellerie où on pouvait prendre soin de lui. Il a payé d'avance l'hôtelier pour qu'il s'occupe de cet homme et lui a promis de s'arrêter à son retour afin de régler les dépenses supplémentaires éventuelles de la convalescence. Alors Jésus a inventé cette histoire, c'est une parabole, pour encourager ses disciples à être bienfaisants. Et le but de cette histoire, qui s'est répandue chez les croyants comme chez les non-croyants, est d'inciter à agir avec bonté et compassion. Mais cette parabole n'encourage pas à le faire sans discernement, ni sans poser une limite. Au contraire, ce Samaritain a beaucoup fait pour cet homme blessé. Certainement, s'il ne s'était pas arrêté, il serait mort. Il n'a pas hésité à se salir les mains en relevant cet homme ensanglanté, et il a pratiquement signé un chèque en blanc pour pourvoir à son entretien. Mais il s'est arrêté là. Il y a d'autres démarches qu'il n'a pas faites. Lorsqu'il a conduit l'homme à l'hôtellerie, il n'a pas stoppé son objectif de voyage, il a poursuivi sa route. Il a confié l'homme à un autre qui pourrait mieux prendre soin de lui. Parce que lui, il avait un voyage à faire. C'était peut-être un voyage d'affaires, peut-être que son patron comptait sur lui pour mener à bien une transaction professionnelle, ou alors peut-être qu'il était en voyage pour des responsabilités familiales et que c'était primordial, donc il s'est juste arrêté pour prendre soin du Samaritain. Il n'a pas stoppé son voyage. On peut imaginer la fin de l'histoire aussi. Supposer que, comme il l'a dit, le Samaritain est retourné à l'hôtellerie pour payer ce qu'il avait promis. Mais l'histoire d'entraide, elle s'arrête là. Il n'est pas dit que le Samaritain a fait quoi que ce soit d'autre pour continuer à assister cet homme. Il ne l'a pas emmené chez lui pour qu'il achève de se rétablir. Il n'est pas écrit qu'il l'a considéré comme un fils pendant tout le reste de sa vie et qu'il lui a donné une part de son héritage. Non, l'histoire s'arrête à l'hôtellerie. Il n'y a rien qui incite le Samaritain à poursuivre ses relations avec cet homme. Comprenez le sens des limites. Qu'a fait le Samaritain ? Tout simplement ce qu'il pouvait. Ce qui était en son pouvoir, et c'est tout. Il n'a pas transformé toute sa vie. Il pouvait le prendre sur son âne, continuer son voyage, faire peut-être un détour pour l'hôtellerie, et après il a continué sa route. Je crois qu'il ne nous est pas demandé d'en faire plus, ni moins. Et quand nous faisons cela, notre bonté peut couler à flot et nous sommes libres de faire preuve de gentillesse et de compassion à chaque fois que nous sommes face à un besoin légitime. Alors la parabole du bon samaritain relate l'action d'un homme seul. Nous comprenons aussi très bien que si nous mettons à plusieurs, nous pouvons être davantage efficaces. On a un exemple dans l'histoire de Jésus, c'est le paralytique, vous savez, qui est amené devant Jésus par ses quatre amis. Vous vous rappelez, il y avait une foule infranchissable devant la maison, donc ils ont eu une bonne idée. On va le faire descendre par le toit. Bon, pas très facile. On ne sait pas qui c'est qui a eu l'idée de porter l'homme malade. Peut-être c'est lui qui a demandé à ses copains. Ou alors c'est un de ses amis qui lui a dit « Attends, ne bouge pas. Normal, je suis paralytique. Je vais chercher Hubert, Edmond et Victor et on va te porter. » Et ils se sont mis à quatre, ils ont fait preuve d'ingéniosité. Et tout ça pour que leur ami puisse recevoir le plus grand des bienfaits. La guérison physique, parce que Jésus lui a dit « Lève-toi et marche !» Et le gars s'est levé, il a marché. Mais aussi, le plus grand des bienfaits, il a reçu la parole de Jésus qui lui a dit « Tes péchés sont pardonnés ». et cet homme a reçu le salut par la foi en Jésus. Et c'est peut-être le plus grand des bienfaits que nous pouvons donner aux autres par des actes concrets de compassion. Nous pouvons offrir à ceux qui nous entourent la connaissance de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour un homme ou pour une femme d'être éloigné de Dieu à cause de son ignorance ou à cause de son péché? Y a-t-il un plus grand besoin pour chaque personne de notre planète que celui d'être réconcilié avec Dieu au travers de la relation que Jésus a développée? Si nous pouvons aider les gens à comprendre l'amour divin manifesté par la résurrection du Christ, nous leur aurons fait le plus précieux des présents. Il y a un an, je vous avais parlé de mon ami de la piscine. Eh bien, je voudrais vous donner des nouvelles. Alors, on se croise à la piscine tous les 15 jours ou 3 semaines. Voilà. Et puis, 2 ou 3 fois par trimestre, pendant l'hiver, je suis allé boire un verre chez lui pour développer l'amitié. Alors, je vais toujours chez lui parce que sa santé ne lui permet pas de trop se déplacer. Et alors mon désir, c'est non seulement de créer une amitié solide, parce que c'est quelqu'un de très sympathique et très intéressant, et aussi un petit peu isolé, mais mon désir est aussi de pouvoir lui parler de Dieu, venu en Jésus. Alors ça prend du temps, mais ça avance. Et à chaque soirée, je glisse dans la conversation quelques graines de foi. Il arrive même qu'on échange sur le sujet. Je suis sûr que ces graines vont germer. Et j'attends de mon Dieu non seulement qu'il se révèle comme son Dieu, comme le Dieu du salut, mais aussi qu'il le relève et lui apporte la guérison. C'est ma prière pour cet ami. Seigneur, fais-toi connaître à lui et guéris-le. Offrir notre Dieu en partage. En attendant, nous pouvons aussi prier pour les gens de notre entourage. C'est un bienfait silencieux et secret qui porte ses fruits. Et ça, on peut le faire soit en attendant, soit en parallèle de nos actions ou de nos paroles. Parler de Dieu et prier pour les personnes, ce sont des actes de bonté immenses et qui sont à la portée de chacun de nous. Le Saint-Esprit nous inspire et nous aide. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ça nous concerne tous dans ce domaine. L'apôtre Pierre, lui, il écrit « Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Alors pour finir, nous avons tous la capacité de faire des actes de bonté, de donner des paroles de compassion, parfois même un sourire ou un regard attentionné pour bénir une personne. Parfois, il faut s'impliquer davantage. Il faut s'y mettre à plusieurs. Parfois, il faut savoir s'arrêter et laisser Dieu continuer son œuvre sans nous. Je voudrais finir en relisant les paroles de Jésus sur le discours qu'on appelle le discours sur la fin des temps en Matthieu 25. Jésus décrit l'accueil qu'il fera à ses disciples. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Selon le raisonnement de Dieu, chaque fois que nous faisons du bien à quelqu'un, une veuve isolée dans une maison de retraite, un prisonnier, un enfant affamé dans un orphelinat du tiers-monde, une mère célibataire en détresse, un commerçant épuisé, un étudiant solitaire, un enfant qui souffre du divorce de ses parents, un collègue de travail qui a besoin de réconfort, un membre de l'Église qui a besoin d'être épaulé, etc. La liste serait tellement longue. À chaque fois que nous faisons du bien à quelqu'un, c'est comme si nous le faisions au Christ lui-même. Et notre acte de bonté touche le cœur de notre Père qui nous dit « Bravo ma fille, bravo ma fille, mon fils, continue, tu me fais plaisir. Amen. »